C'est la dernière petite conférence qu'on a ensemble, puisque ce soir, c'est plus général. J'essaierai de pas trop me répéter, de pas résumer tout. Vous prierez pour ça, pour dire, puisque Monseigneur sera là. Alors, c'est toujours très gênant de parler devant un évêque. Il faut dire ce que l'Esprit Saint désire qu'on dise. Tu restes pour vous aussi. Alors je réponds aux questions et s'il reste quelque temps, il dira un dernier aspect qui me semble important sur Sainte Thérèse. Quelle grâce d'avoir la foi. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant. Elle dit ça dans Carnet, la fin de sa vie, quand elle n'en peut plus de souffrir. Je crois qu'elle montre, et c'est bien de revenir là-dessus, la souffrance au point de vue humain, au point de vue de notre psychologie, est toujours une chose intolérable, ainsi que la mort. Je crois qu'il faut bien le comprendre. La souffrance est la conséquence du péché. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de souffrance. La grâce de justice originelle, donnée aux anges, et donnée à Adam et Ève, avant la faute, est une grâce qui fait qu'il y a une harmonie parfaite entre les exigences de Dieu, les exigences d'amour de la très sainte Trinité et l'épanouissement de notre être humain. Une harmonie parfaite qui fait qu'il n'y aurait pas eu de souffrance, qu'il n'y aurait pas eu de tristesse. La souffrance et la conséquence, ainsi que la tristesse, du péché. Au point de vue purement humain, donc je ne peux pas savoir d'où ça vient. Le philosophe ne sait pas et ne peut pas connaître la faute première d'Adam et Ève. Le philosophe ne peut pas connaître l'existence d'Adam ni d'Ève. Il ne faut jamais oublier ça. Donc le savant ne pourra jamais nous dire qui est Adam et Ève. Seule la foi. Du reste, le savant ne peut jamais savoir avec précision qui est ce qu'est l'origine, l'apparition de l'homme et de la femme dans l'univers. Souviens, c'était à Fribourg, il y avait un des plus grands qui venait de Paris du reste, qui faisait une conférence sur l'origine, autant qu'on peut en parler au point de vue scientifique, de l'homme et de la femme. Je le connaissais bien, et malheureusement, je ne pouvais pas assister à sa conférence. Alors quand je me suis excusé auprès de lui, gentiment, en disant que je m'excusais de ne pas être là, il m'a dit « Ah, c'est dommage. Autrement, j'aurais dit à la fin de ma conférence, eh bien maintenant, je demande à un théologien de nous dire ce que la foi nous dit sur l'origine de l'homme et de la femme. Et il a ajouté, c'est ce que je cherche, un dialogue loyal entre savants, philosophes et théologiens. On a toujours peur les uns des autres, me disait-il. Quand je suis en face d'un théologien, il me salue comme un grand savant. Et pourtant, je sais comme un grand savant, plus j'avance, moins je sais. quand il s'agit de l'origine de l'homme et de la femme. C'est lui qui avait organisé à Paris cette exposition au Trocadéro où on essaie de comprendre un peu toute l'évolution. Et puis ça se terminait par la glace où chacun se regardait. Bien. L'évolution se termine très bien. Il avait fait ça avec un peu d'humour, hein. Exprès, pour montrer qu'au fond, on est devant des opinions. On n'a aucune certitude absolue. La foi nous dit très peu de choses. Elle nous dit seulement qu'il y a eu un homme premier. Il lui a donné un nom. Adam, des rouges. Il a dit ça pour les anges, vous connaissez. Les anges ont eu comme petit frère un peau rouge. Des rouges. Adam. Et Ève, relativement. On sait le comment, la foi ne dit absolument pas. Comment est apparu l'homme? Comment est apparu la femme? Je n'en sais rien. Au point de vue de la foi. Au point de vue philosophique, rien. Le philosophe dit, oui, il est raisonnable qu'il y ait un premier. C'est même nécessaire. Et le savant cherche et émet des hypothèses. Et chaque fois qu'on découvre sérieusement quelque chose de nouveau, on est obligé de modifier quelquefois toutes les hypothèses qu'on avait émises. Mais comme c'est curieux que le point de départ demeure caché, la foi nous dit seulement que Adam et Ève avaient une âme spirituelle, alors que les animaux n'ont pas d'âme spirituelle. L'âme spirituelle est créée directement par Dieu. Mais comment Dieu a-t-il créé cette âme spirituelle dans un corps qui est devenu humain grâce à l'âme? Et que l'âme a été créée à l'intérieur du corps. Comment? À quel moment? Je n'en sais rien. On émet des hypothèses et puis c'est tout. C'est très important de toujours savoir le degré de certitude de telle ou telle conclusion. Et de savoir avec exactitude ce que la foi demande. Et réclame de nous. Le comment d'Adam et Ève, je l'ignore complètement. Il nous est donné selon un mode symbolique. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui nous racontent l'histoire du point de départ de l'humanité, c'est toujours un mode symbolique. C'est-à-dire poétique, mais pas scientifique. Du reste, la foi ne nous dit jamais rien de proprement scientifique, hein, au sens rigoureux. Elle nous donne certaines certitudes. L'homme a une âme spirituelle. J'y crois. Je me souviens que la première fois que j'avais été à Athènes, où j'avais rencontré, il y avait un voyage d'étudiants de l'université de Genève et de Fribourg, on m'avait invité, et ça m'a intéressé d'aller à Athènes, puisque j'enseignais la philosophie grecque. Je me suis trouvé devant des professeurs, mathématiciens, philosophes, tous orthodoxes, qui très vite m'ont posé la question. Nous sommes orthodoxes, nous croyons qu'il y a une âme humaine. Mais est-ce que le progrès de la science ne supprime pas l'âme? Alors, la discussion a commencé avec eux. J'ai dit, la science moderne, biologique, ne pourra jamais de faire découvrir ce que c'est que l'âme. Puisque si l'âme existe, elle est spirituelle, selon toutes les grandes traditions religieuses. L'âme peut être découverte par la philosophie. La philosophie peut découvrir ce qu'est l'âme comme source de vie. Mais le mot âme provient des traditions religieuses. Ce n'est pas un mot philosophique. Le philosophe l'emprunte aux traditions religieuses et montre que ces traditions religieuses touchent quelque chose de réel, que ce n'est pas simplement quelque chose de poétique ou même mythique. L'origine du mal, de la souffrance, de la tristesse, c'est la foi qui nous lie. Et le philosophe ne peut pas le savoir, et le savant non plus. C'est très important de se rappeler ça. Alors, comprenons bien que seule la foi peut, dans la lumière du Christ crucifié, c'est la foi chrétienne, me faire comprendre que Dieu, par le mystère de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par le mystère de la sagesse de la croix, nous faire comprendre que la tristesse de l'agonie, que la souffrance de la croix ont pris une nouvelle signification pour le chrétien. Mais que pour moi, en tant qu'homme, au plan philosophique, la souffrance, c'est négatif. Je ne peux pas aimer la souffrance, humainement parlant. Je ne dois pas chercher à l'aimer. Je ne peux pas aimer la tristesse. C'est négatif, c'est quelque chose qui m'abat, c'est quelque chose qui me fait du mal. C'est quelque chose qui m'empêche d'être parfaitement moi-même. Et donc je la fuis. Et j'essaie par tous les moyens de la diminuer dans ma vie. Mais en tant que chrétien, dans la lumière du Christ, j'aime Jésus crucifié. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Le Christ crucifié exerce sur moi une attraction d'amour. Parce que je sais qu'à la croix, il m'aime et il offre sa vie pour moi. Et donc, j'aime le mystère de la croix parce que j'aime Jésus qui a choisi la souffrance pour me manifester son amour. Qui a choisi la mort pour me manifester son amour, qui a porté toute l'iniquité du monde. Vous voyez, c'est Jésus que j'aime, et Jésus crucifié. Et parce que c'est Jésus et Jésus crucifié que j'aime, alors je comprends que toutes mes souffrances, que toutes les tristesses qui peuvent venir dans ma vie, par le Christ crucifié, peuvent avoir une valeur positive. Peuvent prendre une signification positive, comme la mort. Je peux offrir ma mort, pas seulement la subir. Je crois, du reste, c'est ce qu'on doit faire chaque fois qu'on adore. On offre sa vie. Et offrir sa vie, ça fait que la mort demeure toujours pour ma sensibilité humaine à mal. Mais pour le croyant qui est en moi, la mort unie à celle de Jésus peut être quelque chose de très grand. Et c'est la même chose pour la souffrance. Je crois que c'est très important de se rappeler ça. Et ne tombons pas dans un fidéisme pratique et qui nous dit « Ah, je suis chrétien, donc toute souffrance est un bien. » Non, non. Surtout pas. Ne disons pas ça. C'est faux. C'est un fidéisme pratique, ça. Parce que, de fait, la grâce ne détruit pas ma nature humaine et ma personne humaine transformée par la grâce demeure toujours une personne humaine. Et c'est pour ça que je dois comprendre tout ce qui en moi risque toujours de m'empêcher d'être totalement et et pleinement un homme conscient de ce que je fais, et que ce n'est pas bien d'accepter quelque chose qui diminue ma grandeur humaine. Mais ma grandeur humaine n'est pas cherchée pour elle-même, elle est cherchée pour être parfaitement fils de Dieu et vivre le mystère de la croix. Mais tout est là où se situent ces recherches. Dans quelle mesure pouvons-nous soulager quelqu'un qui souffre du cancer, du sida? Jusqu'où pouvons-nous soulager quelqu'un? On doit le soulager en maintenant sa conscience humaine. Supprimer la conscience de quelqu'un pour soi-disant le soulager, ce n'est pas humain, puisqu'il ne peut plus agir humainement. C'est des problèmes très délicats, mais très importants. Alors vous comprenez, ici, la petite Thérèse fait comprendre que si elle accepte la souffrance, c'est parce qu'elle est unie au Christ crucifié. Que si elle n'était pas unie au Christ crucifié, sa souffrance serait telle qu'elle n'en pourrait plus. Et qu'elle aurait la tentation terrible du suicide. Et c'est vrai, humainement parlant, quand la souffrance est telle, humainement, on n'a plus rien sur lequel on peut s'appuyer. Vous êtes condamné à mort, et vous souffrez terriblement. La tentation est de dire, mais achevez tout de suite que je meurs. On comprend très bien ça. Et c'est pas commode hein, de répondre à quelqu'un qui dit ça. S'il est croyant, on lui dit « offrez tout en union avec la croix du Christ ». C'est donc la foi qui lui permet d'être debout au pied de la croix. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Dans d'autres langues que le français, on ne distingue pas entre espoir et espérance. Il n'y a qu'un seul mot pour les deux. Ça peut se faire. Au fond, l'espoir, dans la langue française, c'est la passion-espoir. Et il y a aussi l'espoir d'en sortir. Et puis, espérance, il y a aussi la passion-espérance. Et l'espérance est une vertu théologale. C'est-à-dire, ce qui vient me fortifier divinement pour porter toutes les luttes, les accepter, en sachant que dans le Christ, je suis victorieux. C'est l'espérance, vertu théologale, qui me permet d'accepter toutes les luttes, toutes les tentations, en sachant que dans le Christ, je suis victorieux. La victoire du Christ à la croix, elle est pour moi. Voilà ce que me dit l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne me fait toujours vivre comme quelqu'un de victorieux. Même si, psychologiquement, je suis comme un vaincu. Je n'en peux plus. Et on voit ça très bien dans les réactions de la petite Thérèse. À la fois on sent qu'elle n'en peut plus, humainement parlant. Et dès qu'elle se réveille, au point de vue de sa foi, oui, que cela dure autant de temps qu'il voudra, elle est victorieuse. C'est normal qu'en nous, il y ait constamment les deux aspects. Parce que, au point de vue humain, La souffrance, c'est quelque chose d'intolérable. Et donc, au point de vue humain, c'est normal qu'on n'en peut plus. Et dès qu'on se remet dans la lumière de Jésus, et dès qu'on fait un acte d'espérance théologale, c'est une vertu théologale pour qu'il s'appuie sur Dieu, et qu'il s'appuie sur la toute-puissance miséricordieuse du Père. C'est ça le propre de l'espérance. C'est s'appuyer sur la toute-puissance miséricordieuse du Père, en sachant que par Jésus, on est victorieux de toute lutte et de tout mal et de la mort. Quel est le double amour que Sainte Thérèse demande? Est-ce l'amour de Dieu et la charité pour les autres? Le double amour peut s'entendre de diverses façons. Je crois que là, Sainte Thérèse veut dire l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. Il y a deux exercices de la charité, deux exercices de l'agapé, de l'amour divin. On l'exerce face à Dieu pour le contempler et l'aimer. Et on l'exerce d'un autre exercice à l'égard du prochain. La charité à l'égard de Dieu assume l'adoration. Tandis qu'à l'égard du prochain, la charité assume un exercice. On se met serviteur. On est serviteur du prochain par la charité. Mais on ne l'adore pas. On n'adore que Dieu. C'est très important de saisir ces deux manières d'exercer cette unique charité qui regarde Dieu et qui regarde le prochain. Il y a un seul amour. Si on regarde le caractère propre de cet amour surnaturel, un seul amour. Deux exercices dans cet amour. L'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain. Donc quand on ne précise pas et qu'on parle uniquement de son expérience, on veut dire ces deux exercices de la charité. Pouvez-vous expliquer cette phrase, communiquer les secrets de Dieu? C'est le diminuer. Pas toujours. Si le sermo sapientiae, on en a parlé l'autre jour, hein, ce premier des charismes, le charisme par excellence, sermo sapientiae, c'est-à-dire avoir le secours de Dieu pour pouvoir communiquer les secrets de Dieu. À ce moment-là, on ne les diminue pas. J'ai dit cette phrase du psaume. Les hommes ont diminué la vérité. En voulant communiquer la vérité, en voulant communiquer les secrets de Dieu, très facilement, il les diminue. On comprend très bien pourquoi. Parce que les secrets de Dieu, qui sont les alliances avec Dieu, notre manière de vivre le mystère d'amour de Dieu, si nous ne sommes pas très attentifs, nous risquons toujours de communiquer ces secrets de Dieu sans comprendre avec suffisamment de précision que notre amour pour Dieu est autre chose que l'amour que nous avons pour le prochain, que l'amour que nous avons au point de vue humain, notre amour d'amitié. Si noble et si grand que soit l'amour d'amitié, il reste un amour humain. Et cet amour humain est vécu très différemment de l'amour divin. Alors, si pour communiquer notre amour à l'égard de Dieu, nous nous servons de nos expériences d'amour d'amitié, on diminue les secrets de Dieu. Si, au contraire, nous sommes aidés d'une manière charismatique, c'est-à-dire d'une manière tout à fait gratuite, de l'Esprit-Saint, qui nous donne ce charisme d'un discours divin, d'un sermo sapiensé. À ce moment-là, on comprend qu'entre l'expérience que nous avons de l'amour humain et l'expérience que nous avons de l'amour divin, il y a bien quelque chose de commun, mais que l'amour divin est tout autre que l'amour humain, tout autre dans sa manière même que nous avons de vivre. Cependant, il y a quelque chose de commun. C'est ça qu'on appelle l'analogie. Il y a quelque chose de commun, et l'amour à l'égard de Dieu a quelque chose d'infini. L'amour à l'égard du prochain, lui aussi, quand il s'agit d'amour d'amitié, a quelque chose d'infini et d'éternel. Mais il est beaucoup plus limité. Parce que dans l'amour à l'égard de Dieu, on aime une personne qui est Dieu. L'amour d'amitié à l'égard du prochain, la personne qu'on aime est une personne humaine. Et donc, on passe du fini à l'infini. On passe de l'infini au fini. Donc, c'est tout autre. Mais cependant, il y a quelque chose de commun. Je crois que le sermo sapiensé nous fait toujours respecter cet abîme qui existe entre la paternité divine sur nous et la paternité humaine. Nous fait toujours respecter la très grande différence, l'abîme qu'il y a entre notre amour à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ et à l'égard du prochain. Cet amour divin et l'amour humain d'amitié que nous avons à l'égard des personnes qui sont nos amis. On respecte la distance infinie qu'il y a entre les deux, tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose de commun. C'est vrai. Toute amitié humaine, l'expérience de l'amour d'amitié, qui est au point de vue humain, l'expérience la plus grande que nous pouvons avoir après l'expérience de l'adoration ou l'expérience d'une certaine contemplation à l'égard de Dieu. Mais il est évident que l'expérience que nous avons de l'amour d'amitié nous saisit dans notre cœur humain, dans nos sensibilités humaines, dans notre affectivité, dans nos passions, d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate que l'adoration et que la contemplation. Je dis bien l'adoration qui relève uniquement de ce qu'il y a d'humain en nous. L'homme n'est parfaitement homme que s'il adore Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Et de comprendre que la laïcité, je vous l'ai déjà dit, ampute l'homme d'une de ses dimensions très fondamentales. L'homme est capable de découvrir qu'il existe un être premier qui est Dieu et qui est son créateur. Et l'homme est capable par lui-même de reconnaître que ce Dieu est sa source de vie, de lumière et d'amour, et il est capable de l'adorer. L'adoration nous saisit dans ce qu'il y a de plus noble en nous, notre esprit, mais notre sensibilité, nos passions peuvent très bien rester dans un état de très grande sécheresse. Tandis que quand nous aimons d'un amour d'amitié, un ami que nous avons choisi et qui nous a choisi comme ami. Normalement, la sensibilité et la passion sont en acte peut se faire, il peut se faire, que dans l'amour d'amitié, quelquefois, notre sensibilité est comme usée. Tout ami, si cher qu'il soit, peut très bien, à certains moments, nous énerver. Parce qu'il a des défauts, que voulez-vous ? Et peut très bien faire à certains instants que la passion que nous avons pour lui, normale, une bonne passion, soit complètement éteinte. Et l'ami s'en aperçoit. Prenez, entre époux. L'époux a travaillé toute la matinée, à son bureau, ou toute la journée, à son bureau. Il a eu des pépins, des choses très désagréables, qui ont meurtri son cœur, son intelligence. Il rentre chez lui, il est fatigué. Son épouse ne voit pas ça tout de suite. Il dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'être complètement un imbécile. Alors s'en ajoute, c'est pas ça qui va lui permettre d'avoir un nouvel amour pour lui. Il est fatigué. Et cette fatigue augmente. Alors voyez, si dans l'amour d'amitié, entre époux et épouse, entre amis, on s'aime parce qu'on est aimé, l'amour d'amitié va à ce moment-là connaître une épreuve. Parce qu'on ne se sent plus aimé. Le véritable amour d'amitié fait qu'on aime l'autre, non pas parce qu'il nous aime, mais parce que c'est lui et c'est sa personne qu'on aime. On l'aime au-delà de l'amour qu'il a pour nous. C'est très important ça, dans cette auto-éducation de l'amour. On aime l'autre pour lui. C'est l'ami qu'on aime. Alors évidemment, ça facilite beaucoup quand on sent qu'il nous aime beaucoup. Quand il est débordant d'amitié, ça facilite, ça aide. Mais c'est de l'ordre du conditionnement. Ce n'est pas ça qui finalise. Et la plupart du temps, il faut bien se le dire, parce que c'est ça qui est source de tous les divorces. Qu'on a aimé l'autre parce qu'il nous aime. Un beau jour, il est fatigué. Il n'est plus le même. Et cette fatigue dure. Il fait tous ses efforts, mais il ne peut plus être aussi charmant, aussi délicieux. Alors à ce moment-là, on ne l'aime plus de la même façon. Et l'amour d'amitié diminue. C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que, de fait, communiquer l'amour est autre chose que l'amour. C'est pas la même chose. On peut très bien continuer d'aimer beaucoup quelqu'un, mais on est trop fatigué. On part de trop. Alors, on ne peut plus communiquer de la même façon. Et quand on aime vraiment quelqu'un, ce n'est pas la communication de l'amour qu'il a pour nous qu'on regarde en premier lieu, mais c'est lui qu'on regarde. Et on l'aime pour lui-même. Ne vous étonnez pas si je ne vous apparais pas après ma mort. Et si vous ne voyez aucune chose extraordinaire comme signe de mon bonheur, vous vous rappellerez que c'est ma petite voix de ne rien désirer voir. Dans les derniers entretiens, c'est tout à fait ça. Marthe a vécu de la petite voix et a eu beaucoup d'apparitions. Marthe a dit aussi, ne vous étonnez pas si on ne porte pas sur les autels. Je n'y tiens pas du tout. j'ai vu exactement la même chose. C'est Dieu que j'aime en premier lieu. Je vous aime beaucoup, mais dans la mesure où Dieu veut. C'est très juste, ça. Et c'est très beau. Si on aime beaucoup quelqu'un, peu importe qu'il apparaisse ou qu'il apparaisse pas, c'est secondaire, ça fait partie de la communication d'amour, ça. Je ne ressens rien du tout, mais ça n'a aucune importance. Vous l'aimez. C'est une épreuve pour voir si vous aimez plus la personne ou la communication de son amour. Et la petite voix, c'est justement regarder l'amour et non pas la communication d'amour. C'est très très important, ça. Surtout pour nous, vous voyez, parce qu'on est dans un âge de la communication. Télévision, médias, la communication. Il faut toujours connaître quelques personnes des médias pour comprendre ce que c'est que la communication. Les médias ne cherchent qu'à communiquer. J'ai assisté une fois, il n'y a pas longtemps, à un dialogue qui est assez extraordinaire. Je ne dirai pas les noms. Quelqu'un d'important qui parlait de la communication. Très l'importance de la communication aujourd'hui, c'est vrai. Un réseau de communication, très très important. Alors, après son discours, qui a duré un bon petit moment, et poser les questions. Alors, c'était un ecclésiastique. Un laïc a posé, oui, c'est très bien tout ce que vous avez dit, mais il y a quand même quelque chose qui est plus important encore que la communication, c'est de savoir ce qu'on va communiquer. Ce qu'on communique. Est-ce qu'il ne faudrait pas poser le problème inversement? Il y a des choses qu'on communique de telle manière et des choses qu'on communique de telle autre manière. Et la communication est au service de ce qu'on doit communiquer. Rechercher la communication pour la communication, est-ce juste? Alors évidemment, celui qui a fait la conférence n'a rien dit, il ne pouvait rien dire. Si c'était qu'il était d'accord, il avait oublié. Tellement la communication était importante et qu'on ne regardait que la communication. Et je crois que c'est très vrai, ça. Vous voyez, pour répondre à la petite Thérèse et à ce que nous dit Marthe. Marthe a eu beaucoup d'apparitions, c'est très vrai. Et le Père Finet, n'hésitez pas à le dire, c'est ici où la Sainte Vierge est apparue le plus. Je ne sais pas si Marthe aurait dit ça. Parce que les apparitions pour Marthe, c'était des présences. Plus que l'apparition visible. Et on s'intéresse quelquefois plus à l'apparition visible et au contexte de l'apparition visible. Je me souviens encore un souvenir à propos de ce d'un très bon curé belge de près de Mons qui avait eu des apparitions à la Sainte Vierge, j'en suis sûr, parce qu'il avait beaucoup de peine à travailler, à étudier. À la Sainte Vierge, il venait faire des répétitions. Donc je lui ai demandé, et comment était-elle la Sainte Vierge? Vous voyez, question par rapport à la communication. Comment était-elle? Alors il m'a regardé, il m'a dit, mais quand une mère est là, on ne fait pas attention comment elle est. Ah, ça j'ai trouvé merveilleux. Elle est présente. Ça m'a beaucoup éclairé du reste pour Marthe. Elle est présente. Ne s'occupe pas de la robe qu'elle avait, c'était à la mode ou pas. Ne s'en occupe pas. Un enfant ne fait jamais attention quand il est un enfant, et tant qu'il est un enfant. La robe de sa mère, c'est sa mère, c'est sa présence de sa mère. Quand on fait attention à la manière dont est-elle habillée, mais ça, ce n'est plus un enfant. On s'intéresse à la communication. Les modes, c'est les communications. Je ne sais pas du tout si Marthe a eu beaucoup d'apparitions. Elle vivait de la présence. Et ça, moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Elle vivait de la présence. Elle m'a jamais dit un seul détail sur une apparition. Alors que la présence de Marie, la présence de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus, c'était présence. Alors présence intérieure, visible, extérieure, j'en sais rien. Et quand Thérèse parle du feu, de la brûlure du feu, qui est la présence, elle montre bien que lorsque Dieu est présent, c'est le feu. Et le feu a ce privilège de tout brûler. Toutes les figures, toutes les figures, toutes les manières de regarder. Il n'y a plus que la présence du feu. Ce symbolisme merveilleux de ce buisson qui brûle sans se consumer. Ça, c'est la présence. C'est pas l'apparition. La petite Thérèse parle bien des yeux de l'aigle et du cœur de l'aigle. Oui, elle dit bien ça, mais description, non. Et là, on voit, voyez, la petite voix ne s'arrête pas aux choses secondaires à cause de la pauvreté. C'est le propre de la pauvreté intérieure, de faire qu'on ne s'arrête pas aux choses secondaires, aux modes, alors que la communication, comme communication, s'arrête aux modes. Il faut réfléchir beaucoup là-dessus, pour bien comprendre la différence entre la présence de quelqu'un qu'on aime beaucoup, et puis l'apparition. L'apparition est pour la présence et la présence n'est pas pour l'apparition. Et donc la présence, c'est tout. Et toute apparition est pour la présence. Et ça, c'est des questions auxquelles je n'entre pas, parce que ce serait très long. Père, que pensez-vous du sacerdoce des femmes ? Jusque maintenant, je n'en pense rien. J'y penserai le jour où l'Église me dira, en tant que théologien, qu'est-ce que vous dites ? Et moi, ça ne me sert à rien d'y penser. Je perds du temps. Mais quelqu'un qui me poserait une grande question, ça, moi, ça m'inquiète. Parce que je suis une femme et je désirais être prêtre. Je renverrai la petite Thérèse. Elle aussi a désiré être prêtre. Pour parler de la Vierge Marie. Est-ce que vous désirez être prête pour parler de la Vierge Marie ? Ah non, pas du tout. Très bien, très bien. Bon. Pour comme ça avoir des réponses. Vous savez bien, c'était le cardinal de Tarentine quand il avait été remplacé le pape pour un grand eucharistique, je crois au Canada. Je ne sais plus si c'était au Canada, je crois bien que c'est au Canada. C'était où ? À Lourdes, oui. Alors on s'est précipité, c'était une Hollandaise. Très sainte personne, Hollandaise. Plus chrétienne qu'Hollandaise, ou plus Hollandaise que chrétienne ? Je sais pas. Toujours est-il, s'est précipité sur lui, tout de suite, premièrement, pour les questions. La Vierge Marie n'a jamais eu ce désir. Réponse adéquate. Et qui n'a sûrement pas satisfait personne. C'est une réponse de théologien. La première parmi toutes les femmes, c'est Marie. La Alors quand vous serez très proche de Marie, vous comprendrez. Approchez-vous de Marie. Et vous arriverez à comprendre. Marie, elle est vierge, elle est mère. C'est merveilleux, et tout est là. Elle n'est pas...
Elle est... Elle joue un rôle de médiatrice. Donc là, un rôle sacerdotal. Par sa grâce. Puisque la grâce... du baptême fait de nous des prêtres, des prophètes, des rois. La grâce du Christ est sacerdotale. Et c'est pour ça qu'elle sacerdoce de tous les chrétiens. Et tout chrétien est prêtre. Dans le sens le plus profond. Puisque le sacerdoce ministériel est ordonné à ce sacerdoce de grâce sanctifiante. Alors, très souvent, la petite Thérèse appelle des signes de Dieu dans une grande pauvreté et un grand abandon. Comment alors saisir ce passage? Je cite, « Un jour, contrairement à mon habitude, j'étais un peu troublé en allant à la communion, il me semblait que le bon Dieu n'était pas content de moi. Et je me disais, ah, si je ne reçois aujourd'hui que la moitié d'une hostie, cela va me faire bien de la peine. Je vais croire que Jésus vient comme un regret dans mon cœur. Je m'approche au bonheur pour la première fois de ma vie. Je vois le prêtre prendre deux hosties bien séparées et me les donner. Vous comprenez ma joie et les douces larmes que j'ai répandues en voyant une si grande miséricorde. » Très joli ce passage, oui. On ne peut s'empêcher de penser alors à Saint Jean de la Croix corrigeant une carmélite ou Sainte Thérèse d'Avila, à propos de la présence sacramentelle du Seigneur, même dans la moindre parcelle de ce lit, il est tout entier présent. On comprend bien la pensée de la petite Thérèse. Néanmoins, cela est surprenant. Je comprends. Alors, elle dit aussi, hein, ce n'est pas mon habitude, contrairement à mon habitude. C'est très intéressant, ça. Et alors, j'avais hésité hein, de faire Thérèse, petite Thérèse, et Saint-Jean de la Croix. Mais j'aurais été trop porté à Saint-Jean de la Croix. Alors, je n'aurais pas regardé la petite Thérèse pour elle-même. Alors que Dieu regarde la petite Thérèse pour elle-même et non pas en fonction de Saint-Jean de la Croix. Donc, j'aurais mal compris la petite Thérèse. La sainteté de la petite Thérèse, et c'est le regard du Christ sur elle, c'est le regard du Père sur elle. Saint Jean de la Croix a sa sainteté propre. Et le Carmel a la Madré, à Saint Jean de la Croix et la petite Thérèse. Et on ne doit pas relativiser la sainteté de Thérèse avec Saint Jean de la Croix. Mais le théologien a tout à fait le droit de regarder les deux. Ça, tout à fait le droit de regarder ça. Oui, à certains moments, quand nous sommes particulièrement fragiles, nous avons besoin de signes. La foi ne supprime pas les signes. Nous n'avons jamais le droit de les mépriser, parce que nous restons des créatures sensibles. Je ne peux pas prendre ce que dit Thérèse et comme une loi que je dois m'appliquer à moi-même. Non. Je vois là l'extrême fragilité, l'extrême petitesse de Thérèse. Surtout de le dire. Moi, je ne le dirai pas, hein. J'ose pas le dire. Et vous non plus, vous ne le diriez pas. Ça vient de la croix, je vais contre. Thérèse, qui connaissait connaissait bien Saint-Jean de la Croix. Et qu'il l'aimait beaucoup. Faut montrer ce que c'est que la petite voix. Faut dépasser tous les signes, oui, oui. Mais les dépasser ne veut pas dire les mépriser. Les dépasser ne veut pas dire du tout qu'à un certain moment, dit Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi ce petit signe. J'en ai besoin. On fait appel à ce moment-là à sa petitesse, à sa fragilité. On ne doit jamais avoir honte de sa petitesse et de sa fragilité. Jamais. C'est ça la petite voix. Ne jamais avoir honte de sa fragilité, de sa petitesse. Et comprendre la parole de Jésus. Seigneur, je te rends grâce d'avoir révélé ces choses, non pas aux sages et aux prudents, mais aux tout petits. Il y a une miséricorde spéciale de Dieu pour les enfants du XXe siècle et qui connaissent leur fragilité. Il y a une grâce particulière de l'amour miséricordieux de Dieu, de Jésus, du Père, à l'égard de ces enfants de la fin du XXe siècle. Et qui connaissent une très grande fragilité psychologique. Une très grande fragilité psychologique. C'est bien évident. On vit un climat qui ne nous aide pas du tout. Un milieu qui ne nous aide pas du tout. Tout est fait pour pousser la séduction. Pour éveiller la séduction, augmenter la fragilité, tant au plan de la concupiscence de la chair qu'au niveau de la concupiscence des yeux, la vanité, qu'au niveau de la concupiscence de la vie, l'orgueil. Dans notre monde d'aujourd'hui, éveille en nous toutes ces fragilités. On le sait bien. Quand on est vieux, on les supporte plus facilement. Mais on les voit pour ceux qui sont plus jeunes. Et on comprend que Jésus est le Père. Ont une miséricorde beaucoup plus grande vis-à-vis de ceux qui ont été élevés dans ce milieu ou qui peut-être n'ont reçu aucune éducation. C'est très vrai. Quantité d'aujourd'hui sont des convertis. Et n'ont eu aucune éducation chrétienne, ont été détournés de la voie droite très tôt, et Dieu les a repris. Je pense beaucoup, vous savez, à cette parabole merveilleuse, mais difficile à lire, qu'on voit dans l'Évangile. Tous ceux qui normalement auraient été invités au festin des noces ont refusé. Alors on dit aux serviteurs, allez ramasser tous ceux que vous voyez sur la route pour que la salle du festin soit pleine. Appliquez ça. On voit très bien ce que c'est. Les hommes qui normalement sont invités sont des gens vertueux, sont des gens qui ont des qualités humaines merveilleuses et une capacité d'efficacité étonnante. Et voilà que des quantités refusent. Ils refusent. Parce qu'ils sont habitués à un certain gabarit. Je me souviens. Un garçon que je connaissais, rejeté. Quelqu'un rejeté par ses parents. Très tôt, hein, abandonné, donc relégué à l'assistance. Alors, reçu merveilleusement dans une famille pour être. Mais c'est toujours dur à porter, hein, quand on arrive à comprendre ça. Alors, il sentait appelé à une vocation pour le sacerdoce. Et au bout d'un an de séminaire, on lui a dit non, vous n'avez pas le gabarit qu'il faut pour être prêtre. Comme si Jésus nous avait donné un gabarit pour être prêtre. Et là, c'était le gabarit de PDG. Au bout d'un an, oui, comme c'est rude, hein. J'en ai une autre histoire. Même genre. Quelqu'un que j'avais vu dans la vie religieuse, qui me semblait comme un canard au milieu des petits poussins. Il y a toujours des canards au milieu des poussins. C'est-à-dire que cette religieuse était au Carmel, et elle était à la porte, et elle bavardait énormément. Je me suis dit quand même, hein, Carmélite qui bavarde. Puis j'apprends, incidemment, que cette sœur, oui, aussi assistante, elle avait été rejetée par ses parents, reçue par une famille. Elle a appris que ses parents n'étaient pas ses parents. Il les a cherchés. Il a vu que son père et sa mère étaient en prison perpétuelle. Alors quand on sait ça et qu'on la voit parler, on se dit quelle miséricorde merveilleuse de Dieu, qu'elle parle encore, même carmélite, et surtout qu'elle soit carmélite. Et on chante le Magnificat. Oui, qu'on juge selon les apparences. Si vite. Et quand on sait tout ce qu'elle a porté, elle a porté victorieusement, parce que je crois que c'est très très important, vous voyez, de ne jamais rejeter les signes, de ne pas courir après. Faut pas être collectionneur des signes. Collectionneur des apparitions. Collectionneur de toutes les... La petite Marthe était farouche là-dessus. Je me souviens sa réflexion qu'elle a eue une fois, comme ça. Voir quelqu'un qui courait à toutes les apparitions. Alors, elle m'a simplement dit, pour moi c'est très difficile de les corriger. Mais j'ai toujours envie de leur dire, écoutez, mais non, si Dieu vous a permis de rencontrer quelqu'un qui, c'est vrai, a été gratifié de certains signes, très bien, mais ne courez pas après tout. Et c'est très vrai, ça. Vous voyez, c'est là, la pauvreté à l'égard des signes. C'est la petite voix. Mais la pauvreté à l'égard des signes fait que si Dieu en donne, on est émerveillé. Et c'est ce qu'elle fait, c'est ce que Dieu a fait pour la petite Thérèse. Dieu lui a donné un signe. Elle n'attendait pas ça, Dieu lui a donné un double signe. Elle demande toujours la double part, la petite voix, pour ses désirs. Alors c'est là où on voit la pauvreté, même à l'égard des signes. Mais on doit exercer une prudence divine à l'égard des signes. Ne pas les rechercher en premier lieu. Et si Dieu permet à certains moments qu'on est très, très accablé par la tristesse, par la fatigue, et que Dieu nous aide à demander un signe, C'est beau, ce texte, parce qu'il nous montre la manière de la petite Thérèse accepter pauvrement ainsi.